Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
6h avant minuit, vous écoutez l'émission d'info locale de Syllab. Nous sommes le lundi 28 avril 2025. La semaine dernière, une lycéenne de 15 ans est morte poignardée et 3 autres ados ont été blessés dans un lycée de Nantes. Le coupable, un de leurs camarades, a priori en grande détresse psychologique. Face à ce problème de santé mentale, les réactions politiques ne se sont pas faites attendre. La solution, intensification des contrôles aux abords et au sein des établissements scolaires, portiques, fouilles systématiques. Je me demande quel sens ont de telles mesures. Peut-être qu'il faudrait contrôler les cerveaux, mettre en place des fouilles de neurones. En tout cas, tous les spécialistes le disent, les jeunes vont mal. Ils et elles sont de plus nombreux et nombreuses à aller mal depuis le Covid et ils et elles vont de plus en plus mal. Tentatives de suicide, phobie scolaire, automutilation. Le nombre d'adolescents et de jeunes adultes qui ont consulté en service de psychiatrie a augmenté de 32% en 2024. Or, il n'y a pas assez de psychiatres, de pédopsychiatres ni de psychologues. Selon le Syndicat national des infirmiers, infirmières, conseillères de santé, on trouve à ce jour une infirmière pour plus de 1800 élèves et étudiants, étudiantes. Si ce n'est que l'argent le problème, on va penser comme ça, peut-être qu'engager ces professionnels en amont des futurs drames qui, c'est sûr, arriveront, coûterait moins cher que de payer des policiers ou des surveillants pour contrôler les entrées des lycées après que des tueries soient commises. Enfin bon, qu'est-ce que j'en sais ? J'ai pas fait l'ENA ni sciences politiques. Tout de suite, le flash de Cyriane.
Un nouvel enfer. Tels sont les mots employés par le Comité international de la Croix-Rouge ce lundi pour qualifier la situation gazaouie depuis la reprise de la guerre par Israël. Au même moment s'ouvre une semaine d'audience à la Cour internationale de justice sur l'obligation d'Israël d'assurer et de faciliter l'assistance humanitaire aux civils palestiniens et palestiniennes dans les territoires occupés et en particulier à Gaza, zone qui, je cite, « subit et endure des morts, des blessés, des multiples déplacements, des amputations ». Des séparations, des disparitions, des famines et un déni d'aide et de dignité à grande échelle, d'après Pierre Krehenbuhl, directeur du Comité international de la Croix-Rouge lors d'une conférence sur la sécurité à Doha, au Qatar, l'un des pays médiateurs. L'organisation décompte aujourd'hui plus de 400 travailleurs humanitaires et 1000 travailleurs de la santé tués dans la bande de Gaza, parmi elles et eux, 36 de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Concernant les civils, le ministère de la Santé du Hamas recense à l'heure actuelle 52 243 morts et mortes, palestiniens et palestiniennes, depuis le 7 octobre 2023. Nous avons signé l'accord pour 26 avions Rafale aujourd'hui, a déclaré sobrement à l'AFP un porte-parole du ministère indien de la Défense. Cette ratification concernant leur commande de nouveaux avions de combat produits par le groupe d'assaut avions à l'État français. Un accord très attendu puisque évoqué déjà en 2023 lors de la visite du Premier ministre d'extrême droite indien, Narendra Modi, dans l'Hexagone. Cette nouvelle commande fait suite à une première au sujet de l'achat de 36 Rafales par l'Inde à la France. L'accord ne prévoit pas seulement l'acquisition des avions, mais également l'entraînement des pilotes, les simulateurs pour leur formation initiale, les équipements associés, les armes et la maintenance des avions. Ce à quoi s'ajoutent des transferts de technologies pour l'intégration des armes locales en Inde, ainsi que des usines pour la production du fuselage du Rafale, et la maintenance et la réparation des moteurs, senseurs et armes en Inde. Une annonce intervenant dans un contexte particulier, puisque ce pays et son voisin, le Pakistan, sont au bord de la guerre depuis un attentat ayant fait 26 morts la semaine dernière dans le Cachemire indien. 3 jours de cavale. Cette nuit, Olivier H. a été retrouvé. En effet, l'homme s'est rendu de lui-même dans un commissariat de Pistoia, non loin de Florence, dimanche vers 23h, a indiqué aujourd'hui à l'AFP le procureur d'Alès, Abdelkarim Grini. L'homme est accusé d'avoir poignardé à mort Aboubakar Cissé, alors qu'il priait dans une mosquée gardoise à la Grand Combe. L'ensemble de la scène a été filmé par les caméras de l'établissement. Le présumé meurtrier avait lui aussi enregistré son acte avant de le diffuser sur les réseaux sociaux. Dans le document, on pouvait l'entendre dire « ton Allah de merde » à la victime avant de le tuer. Cet après-midi, une information judiciaire pour meurtre aggravé par la préméditation et la circonstance de commission à raison de la race ou de la religion, ainsi que de soustraction d'un criminel à des recherches ou à son arrestation, a été ouverte, a annoncé la procureure de Nîmes. Vue comme une solution pour certains, comme une contrainte pour d'autres, une nouvelle proposition de loi d'installation crée des frictions entre le milieu médical et les gouvernements français. Le 16 avril dernier, Lucas Poitevin, président de l'Association nationale des étudiants de médecine en France, l'ADMEF, a appelé ses compères à une grève nationale intersyndicale illimitée à partir d'aujourd'hui. Eva nous explique pourquoi.
On veut soigner le plus grand nombre, mais pas sous la contrainte. Une pensée confiée à France Info par Marc-Adrien Vaut, interne de médecine en infectiologie à Cannes, partagée par une grande partie du corps médical français. Soutenue par l'Ordre des médecins, SOS Médecins ou encore le syndicat Jeunes Médecins, les professionnels de santé ont été appelés à faire grève aujourd'hui et à manifester dans les rues demain après-midi. Ce qui provoque leur colère, c'est la proposition de loi portée par le député socialiste de Mayenne, Guillaume Garot, révélée en novembre dernier par France Inter. Son but principal, mettre en place une régulation des installations des médecins français et françaises en faveur des déserts médicaux. Mais ce qui caresse dans le mauvais sens du poil les professionnels de santé, c'est plus le fond que la forme.
Comment ça, Eva ?
Au sein des 16 articles qui composent la proposition de loi, l'article phare prévoit une meilleure répartition des médecins sur le territoire français en se basant sur le principe suivant. Un médecin doit attendre le départ d'un autre pour s'installer dans une région où l'offre médicale est suffisante et avoir l'accord de l'agence régionale de santé. Soit les médecins ne pourront plus s'installer librement. A l'inverse, un médecin pourrait s'installer dans les territoires où l'on a besoin de lui, a expliqué le député à la tête du projet Guillaume Garot en hiver dernier, faisant référence aux importants déserts médicaux français. Il fait remarquer sur France Inter que la régulation de l'installation des médecins a montré son efficacité au Canada, en Allemagne et qu'elle existe pour toutes les autres professions de santé. Au début de ce mois-ci, l'Assemblée nationale a adopté ce premier article. L'examen du reste du texte est prévu, lui, pour début mai 2025, avant d'être examiné par la suite par le Sénat. Soutenu par 95 autres députés parlementaires allant de LFI à LR, Guillaume Garot n'a pas réussi à convaincre le Premier ministre français François Bayrou. Jeudi dernier, lors d'un déplacement dans le Cantal, François Bayrou a partagé son plan de, je cite, « solidarité territoriale ». Selon lui, les médecins des territoires voisins des déserts médicaux, comme dans les départements du Cantal, devraient effectuer un ou deux jours par mois de consultation dans ces zones sous-dotées. Mais les plans Garot-Bayrou ne changent pas le problème, selon Patricia Lefebure, présidente de la Fédération des médecins de France. On est un peu surpris, c'est toujours raisonné comme s'il y avait beaucoup de médecins et qu'ils n'étaient pas installés là où il faut. Mais en fait, il n'y a pas assez de médecins, déplore-t-elle. Le ministre de la Santé Yannick Neuder soutient ses propos en argumentant que la France reste face à une pénurie de médecins. Même potentiellement régulée, une pénurie reste une pénurie, affirme-t-il.
Selon le rapport sénatorial remis le 29 mars 2022, 30% de la population française vit dans un désert médical. Mais la désertification médicale continue de progresser, en partie due au manque de médecins par rapport à l'accroissement et au vieillissement de la population sur le territoire français. Face à la hausse des demandes de soins, le burn-out, très fréquent dans le milieu médical, a atteint 45% chez les généralistes français et françaises. C'est le printemps, c'est l'heure du grand ménage pour le gouvernement. Du moins, pas pour maintenant, mais pour le budget de l'an prochain. Comme l'a annoncé la ministre des Comptes Publics Amélie de Montchalin hier sur le plateau jumelé de CNews et Europe 1. Dans les faits, je cite, « un tiers des agences et des opérateurs de l'État qui ne sont pas des universités seront fusionnés ou supprimés. Une économie de 2 à 3 milliards d'après le ministère. Ces agences publiques emploient actuellement 180 000 personnes et certaines sont déjà dans le viseur du gouvernement. » Parmi elles, les agences bio et celles pour la transition écologique, l'ADEME, l'Office français de biodiversité ou encore la commission du débat public. Savez-vous ce qu'est un Tobrouk ?
Non, mais tu vas nous le dire, je crois.
Oui, dis-nous, Cyril.
Oui, je vais vous dire. C'est un petit ouvrage de fortification, une sorte de mini-bunker de 11 mètres carrés dans lequel on peut cacher un soldat. Et bien à l'occasion des travaux du réseau express vélo entre Bru et Saint-Jacques-de-la-Lande, un de ces édifices a été découvert sous des broussailles. Le petit abri avait été construit par les Allemands pendant leur occupation lors de la Seconde Guerre mondiale. afin de surveiller l'aérodrome. Le Tobrouk, du haut de ses 11 mètres carrés, est visible à la surface puisque dépassant d'environ 20 cm du sol où il est enfui. La ville a déclaré conserver l'ouvrage à sa place et vous pourrez donc venir l'observer si vous le voulez.
Une sorte de mini block house quoi.
Exactement, mini block house. Comme on dit ici, à Célab.
Comme on dit chez Syrienne.
Vendredi 24 avril, s'est tenue à Esquisse une rencontre, lecture et grignotage autour de l'ouvrage Rose Canine Griffe Chromée, publié chez A Rouge Édition en 2024. Cesse s'y est rendu et nous en donne un aperçu grâce à une interview d'Ariel, bénévole d'Esquisse et animatrice de la rencontre, et à un extrait de la lecture par Cola, éditeur chez A Rouge Édition, de l'introduction écrite par Adèle Tincelin.
Rose Canine Griffe Chromée est née en mai 2020, à la toute fin du premier confinement. D'une invitation de Juliette Rousseau à déployer nos voix et à prendre nos places, l'objet final s'est trouvé en décalage avec le territoire des éditions du commun. Il a alors commencé à se communaliser et à tisser des liens d'écriture et de voix en engageant son voyage de maison d'édition en maison d'édition avant de trouver la sienne à bord du vaisseau d'A Rouge Édition.
Bonjour, je m'appelle Ariel et on est au centre LGBTI+ de Rennes, Esquisse. On va présenter des projets aux réunions de bénévoles afin que chacun puisse présenter chacun chacune. Donc là, on avait eu un mail de l'édition et de Cola qui nous a proposé de venir le présenter. Rose Canine Griffe Chromée par des auteuristes et illustrateuristes trans, inter et ou non-binaires. Titre à un minimum parler à Esquisse. Un minimum, c'est un peu un euphémisme.
Vous avez passé la lisière pour entrer dans la clairière. Chut. Ici s'élève le chant des animaux, la voix des arbres, le murmure des plantes et des gemmes. La mélodie de ce qui émerge là ne pourra plus s'interrompre.
Quand on a regardé les autoristes pour voir si on validait, on a reconnu certains noms, notamment des personnes qui sont passées par Esquisse, et du coup on a accepté d'organiser la rencontre.
Ici se rassemblent des autoristes et illustratrices humaines qui se reconnaissent dans une communauté de genre. Fées, elfes, activistes, racisées, travailleuses du sexe, systèmes, juifs, sorcières, autistes, déracinées et désapprivoisées, dont les noms civils et où choisis se posent et s'affichent. Là, précisément là.
Et est-ce que tu peux nous décrire un peu le livre visuellement, ses dimensions? Ouais, c'est du A4, mais pour un format de livre, c'est assez loin du poche. C'est vraiment un très joli livre-objet. J'aime beaucoup la mise en page et la manière dont c'est mis. Il y a, je pense, vraiment une recherche dans le rendre agréable à lire et joli. Il y a des illustrations aussi dedans. Non, il a l'air vraiment très chouette.
Ce recueil est un show, une soirée, un cercle, un cadeau que nous nous faisons et que nous vous faisons. Un passage par nos lisières obscures, une réactivation de nos émotions les plus profondes et les plus protéiformes.
À 19h, j'irai cracher sur vos ondes, l'émission littéraire de Célab vous chroniquera ce recueil piquant et pailleté qu'est Rose Canine Griffe Chromée.
Merci Cyriane pour ce...
Il m'en reste une.
Oh pardon, excuse-moi.
C'est pas fini quand même.
Excuse-moi, j'allais dire pour ce dernier flash. Mais vas-y, fais ta dernière brève.
Ma vraie dernière brève.
C'est le moment. Merci Timothée.
Vous êtes doté d'une grande générosité. Aimez la musique électronique et les open air. Alors rendez-vous ce samedi au Parc Saint-Cyr pour la 7e édition d'un événement unique en France, Réveille ta moelle. L'association du même nom y organise un open air festif pour sensibiliser aux dons volontaires de moelle osseuse. Sur place, évidemment, il y aura la fête, pensée avec 15 collectifs d'artistes rennais, mais aussi des stands pour pouvoir s'inscrire aux dons et peut-être, qui sait, sauver une vie. Alors rendez-vous donc ce samedi à partir de 14h au Parc Saint-Cyr.
Bah voilà, maintenant je peux le dire, c'était la dernière brève
et oui.
Du dernier flash de Cyriane. Mais bon, tout ça, on en parle mercredi. D'abord, l'interview.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllab.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Pull beige dont on ne fera pas la pub gratuite, eyeliner, collier et nose ring doré et surtout casquette à strass doré dont j'aimerais dire la marque car elle est devenue iconique grâce à une certaine chanson. C'est Talou, l'artiste Talou qui est en face de moi. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes artiste bretonne et guyanaise aussi.
Oui, je suis née en Guyane, c'est ça. Mon père est nigérien.
Et donc, dans... votre style de musique, pardon, il est souvent décrit comme hip-hop soul alternatif entre chansons françaises et hip-hop avec des accents de R&B. Est-ce que selon vous, quand on mélange tout ça, ça donne Talou ? Quel mélange on ferait pour donner Talou ?
Si tu veux, tu peux me tutoyer.
Ah, c'est super gentil.
Enfin, si t'as envie. Et du coup, ouais, carrément, c'est ça. C'est un mélange de, comme tu disais, hip-hop, soul. Tout ça, ça forme un peu la musique. Après, il y a beaucoup d'hybridation, de jazz, de rock. Il y a plein de choses, mais tu l'as joliment dit, en tout cas.
C'est gentil. Et je vais mettre un extrait aussi.
Ces nuits sont roses, mais ne l'éclairent pas. Ce soir-là, dans le vacarme du silence, la lune face à la fille se moque. Sèche tes larmes d'enfant, cesse d'attendre à la fenêtre ton prochain tourment. Et puisque tu ne dors pas, cours. Ton corps est ta seule cage. L'exil. L'exil n'est pas une punition.
Alors, ce n'est pas ta voix, c'est celle de Sage B. Mais j'ai mis cet extrait parce qu'il commence par énoncer ton premier album, Rose Nuit.
Ouais.
Et il finit par dire le nom de le nouveau, Exil.
Carrément.
Et du coup, je voulais savoir, est-ce que c'était fait exprès? Est-ce qu'ils sont reliés entre eux?
Tout à fait. En fait, c'est trois EP qui sont un peu conçus comme des trilogies. Et le tout premier, Rose Nuit, c'est un petit peu le premier, le bébé. D'ailleurs, je suis enfant sur la pochette. Tout est un peu lié. La suite, c'est Sous le lit du monstre. Donc, c'est ce qui se passe sous mon lit d'enfant, finalement. Et Exil, c'est sur la pochette. En fait, j'ai voulu que ça se voit visuellement, en fait, qu'on comprenne un peu le lien. Et c'est toujours dans la chambre. Et cette fois, c'est moi, adulte, qui regarde sous mon lit. Et bon, c'est plein de petits trucs un peu métaphoriques. Mais c'était une manière pour moi d'exprimer avec des images ce que je voulais raconter à travers ces trois projets avec lesquels j'ai commencé la musique, quoi, et sur lesquels je me livre sur des mots d'enfance et des mots d'adulte aussi, quoi.
Bah, en parlant de visuel et de couleurs, j'ai remarqué que donc Rose Nuit, c'est plus l'album, il est plus rose, et plus on avance, plus par exemple la pochette de Exil, c'est plus rouge, écarlate, c'est plus un couleur sang.
Carrément.
Et donc ça aussi, c'est fait exprès.
Ouais, c'est plus intense, ça devient plus digital aussi par rapport aux productions qu'on entend. Les instrumentales sont plus trash, plus intenses, et du coup ça s'est voulu aussi dans la charte graphique visuelle d'accentuer ce côté-là pour quitter le côté un peu soul et doux du début pour aller vers quelque chose d'un peu plus métallique.
Et pour revenir un peu aux origines de votre projet, donc le premier album, c'est donc Rose Nuit en 2021. Est-ce que vous pouvez nous parler de quoi part ce projet d'être chanteuse, le déclencheur?
Alors Rose Nuit, du coup, c'était vraiment un petit accident, on va dire, au début, parce que je faisais pas du tout de musique avant. Enfin, je faisais de la guitare et je chantais en discret dans ma chambre. Mais c'est venu d'une collaboration avec moi et Tom, du coup le producteur des trois EP. Et en fait, c'était des chansons que j'avais écrites suite à des chagrins d'amour dans mon téléphone et que je jouais sur ma guitare. Et en fait, je lui ai montré assez rapidement et on a commencé à composer ensemble autour de ça. Donc Tom a commencé à créer des arrangements autour de ma voix, de ma guitare, et c'est devenu ce projet Rose Nuit. Mais au début, c'était pas forcément un plan. Tout est venu en faisant, en fait. Et puis même le fait d'y croire de plus en plus et le fait d'imaginer une histoire, un lien et de créer vraiment tout ce qui entoure la musique, donc des chartes visuelles, tout ça, c'est venu bien après la composition de cette EP Rose Nuit, quoi.
Et donc, c'est plus après que la passion pour devenir peut-être chanteuse est venue avec la composition
Ouais, c'est ça, exactement. C'est venu avec la scène, avec le fait de prendre confiance en moi et de comprendre aussi que c'est possible de faire de la musique et d'en faire quelque chose de sérieux, une carrière, quelque chose comme ça, quoi.
Et en parlant des textes qui sont très vulnérables, qui sont très introspectifs aussi, est-ce que par rapport à ces paroles que tu décides de mettre en avant et d'ouvrir et de partager, est-ce que par rapport au public, comment ça se passe? Est-ce comme de base, si tu voulais pas être chanteuse, comment est-ce que tu as trouvé ce lien avec le public? Est-ce que c'est quelque chose que tu recherches?
Ouais, en fait, oui, c'est vrai que mon écriture, elle est assez intime. Et je pense que c'est ça qui lie le public, justement, c'est le fait qu'on puisse s'identifier à ce que je raconte, ou au moins ressentir comment je le raconte, puisque c'est assez des moments où j'étais, où je me sentais vulnérable, mais j'essaye de transformer cette vulnérabilité en force et en intensité et sur scène, et d'en faire quelque chose de commun, et pas de triste, mais plutôt de lumineux, et en faire un soutien avec le public, et voilà, trouver des connexions comme ça. Mais moi, c'est ce que je préfère, en tout cas, dans ce que j'écoute comme musique et ce que je vis sur scène, avec même en tant que spectatrice, quand je vais voir des artistes, moi j'adore qu'ils se livrent, qu'ils se racontent, et j'adore m'identifier à ce qu'ils me racontent, quoi.
Et surtout, dans tes paroles, tu te livres particulièrement avec des descriptions, je trouve, qui sont très intéressantes, ou la façon dont tu décris, par exemple, dans la chanson « Petite flaque », c'est que cette parole « j'ai bu et bu comme un parapluie en haut des toits », c'est si bien trouvé. Ou encore des métaphores dans le morceau « Onirois ». Je suis dans le fond, du fond de la pièce, mais aussi mes larmes font couler des textes. Après, je vais mettre un extrait, ce sera plus clair.
Je suis dans le fond, du fond de la pièce, on veut toujours ce qu'il y a à côté, je devrais m'écouter. Je suis dans le fond, du fond de la pièce, épuisé mais je dois décoter, car à mon cahier, mes larmes font couler des textes, mes textes font couler des têtes. Je perds du temps en boucle, mes doigts me brûleront jusqu'à la plume, tous mes souvenirs vont oublier, j'ai la tête sous l'eau dans l'écume.
Par exemple, dans cet extrait, mais même dans les autres chansons, est-ce que ces façons de décrire les choses, les sentiments, etc., ça devient naturellement lors du processus d'écriture, ou alors tu vas chercher, puiser quelque part?
Je pense que c'est entre guillemets naturel, dans le sens où ça vient de moi, de ce que je ressens, et j'aime bien écrire avec des images. Et du coup, c'est peut-être du coup une manière d'écrire qui, je pense pas que ça me soit propre. Je pense qu'il y a plein de gens qui écrivent comme ça aussi, mais moi j'adore imaginer que les choses soient visuelles et métaphoriques et un peu poétiques. En fait, j'ai l'impression d'écrire des poèmes et je kiffe ça. Après, parfois ça marche pas toujours en musique, et c'est aussi cool de bien comprendre le point, mais j'aime bien laisser aussi l'interprétation libre à la personne qui va écouter, et puis en fait tu peux le retourner dans tous les sens et comprendre comme tu le veux. À un moment A et à un moment B, ça serait peut-être pas la même chose en fonction de ton état émotionnel et tout. Moi, j'adore les images, donc j'aime bien écrire comme ça.
Et en parlant du processus de création un peu plus, est-ce que dans la création des musiques, est-ce que c'est d'abord les paroles qui sont écrites, puis on va chercher la mélodie et
Ouais, c'est ça. En fait, j'écris d'abord les... Alors, du coup, la mélodie et les paroles, en fait, ça dépend. En fait, j'écris d'abord. Je peux aussi faire des top lines et écrire par-dessus mes top lines. Mais tout ce qui est instrumental et toute la production derrière, c'est Tom qui va s'en charger, mais a posteriori. Et du coup, il y a d'abord la structure, l'essence même, donc juste le texte, le propos, la mélodie. Et ensuite, tout ça va être habillé en studio avec le logiciel et tous les instruments autour. Et ça va, parfois, ça change l'intensité de la musique, ça change comment on va la lire. Mais du coup, oui, d'abord, je suis dans un processus plutôt intime et seul. Et c'est ensuite qu'on partage ensemble avec Tom, quoi.
J'ai vu que ta dernière date, c'était samedi 19 avril, dans le cadre des Inouïs du printemps de Bourges, ouais. Crédit 2025. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que les Inouïs ? En quoi ça consiste ?
Ouais. Les Inouïs, du coup, c'est un dispositif d'accompagnement qui existe depuis 40 ans. Et l'idée, c'est de faire un tremplin. Tu affrontes plein de gens d'abord de ta région, sur scène. Tout le monde passe 30 minutes sur scène et on est évalué par des jurys à la fois dans le public, je crois, et qui nous regardent ensuite sur des vidéos. Et ensuite, ça devient national et là, il y a une deuxième sélection et t'es face à un artiste, enfin, t'es face à des artistes, mais dans toute la France, quoi. Et donc, il reste à la fin, sur genre 3000 candidatures, il y a 30 artistes qui sont gardés dans chaque région. Et c'est un petit peu catégorisé, donc il y a rap, alternative, groove, pop, rock, etc. Et le truc, c'est qu'ensuite, tu passes une semaine à Bourges, où t'es accompagnée, donc tu dors, t'es nourrie, logée, blanchie. Et t'as des cours du matin au soir avec des pros qui viennent te parler de management, d'édition, de plein de trucs. T'as des jams, tu rencontres des pros sur des speed meetings, donc plein de pros de l'industrie, des labels, des bookers, des programmateurs, tout ça, des managers. Et à la toute fin, il y a un concert, du coup, encore. Et cette fois, il y a 3 lauréats sur les 30 artistes sélectionnés. Et cette année, c'était Edith et Préto, notre président du jury. Et donc voilà, il y a 3 artistes qui ont été sélectionnés. Bon, je n'en fais pas partie, mais je suis très fière d'eux. Et voilà, ça rapproche beaucoup. On fait beaucoup de liens humains et en même temps pro, parce qu'il y a plein de pros toute la semaine. Et c'est hyper intense, mais c'était vraiment, pour moi, c'est le meilleur tremplin que j'ai fait déjà, parce que j'en ai fait beaucoup. Et le meilleur tremplin en France, quoi. C'est hyper enrichissant.
Et donc là, le samedi, c'était la dernière étape de sélection, c'était...
Ouais, c'était le résultat, du coup, c'était samedi, à la suite de tous les concerts qu'il y avait un peu tous les jours. Il y a des concerts d'artistes sur la grande scène, genre il y avait, je sais pas, Théodora, Tiakola, des trucs comme ça, Michel Polnareff. Et puis, sur des scènes un peu plus petites, il y a Les Inouïs qui passent un peu tous les jours. C'est ouvert au public et aux pros, voilà.
Et après, votre prochaine date, ta prochaine date, ce sera le 3 mai et le 5 mai, c'est bien ça?
Alors, le 3 mai, du coup, à la cartonnerie à Reims. Et la prochaine, c'est le 5 juillet.
Ah
et c'est, bon. C'est pas grave. 5 juillet, du coup, là, aux alentours de Paris, dans le 7-7, avec la salle Filset. Du coup, on joue en extérieur. Voilà, tout est sur mon Instagram si vous voulez regarder les prochaines dates.
Et est-ce que j'ai une question pour faire un peu d'introspection ensemble?
Allons-y.
sur ces dernières années donc dans l'industrie de la musique, et si on regarde ton chemin parcouru, est-ce qu'il y a peut-être un sentiment ou une phrase ou un mot ou une parole qui ressort de ces 4 dernières années de travail de votre carrière?
Ah, c'est une bonne question. On va tous y réfléchir ensemble.
Petite musique d'ascenseur.
je pense, je dirais... Alors j'hésite entre plusieurs mots, tu vois, je suis en mode humain ou confiance, sincérité. Je pense à des mots comme ça qui me viennent parce que j'ai l'impression que c'est ce que je... avec tout ce que j'ai vécu, c'est ce qui me touche le plus, c'est ce qui reste en tête, quoi. C'est la sincérité des moments que j'ai vécu, les humains que j'ai rencontrés et les relations, la sincérité des relations du coup que j'ai eues, que ce soit avec Tom ou même avec moi-même, du coup, dans ce que j'essaye de faire, de raconter, surtout dans un milieu qui est très superficiel. C'est hyper important, je pense, de rester connecté à la raison pour laquelle tu fais ça, quoi, et pourquoi on se met sous des feux des projecteurs et des réseaux sociaux, tout ça, à quoi ça sert tout ça, quoi. Et du coup, ouais, j'essaye de rester connecté avec moi-même et avec les gens qui m'entourent de manière la plus saine possible. Je pense que c'est ça que je retiens des 4 années, c'est ne pas sombrer dans quelque chose de trop léger, trop superficiel qui fait qu'en fait, t'as plus aucune raison de faire ce que tu fais. Et voilà. Et moi, j'ai un autre métier à côté, qui est le métier pour lequel j'ai fait des études. Du coup, je me dis, si je fais de la musique, c'est vraiment pour avoir ce côté-là d'épanouissement, et c'est pas pour, au final, me retrouver dans la même boucle infernale. Bon, voilà.
Ouais, c'est très beau. Et par exemple, quand vous faites vos dernières dates, là, donc c'est principalement Exil que vous jouez, ou alors est-ce qu'il y a des exclus? Est-ce que tu travailles sur tes nouvelles chansons, peut-être?
Alors, sur scène, on joue Exil, on joue aussi Sous le lit du monstre, deux chansons. Et on fait plus trop des musiques d'heureuse nuit. Peut-être que ça reviendra sur des shows un peu plus longs, parce que là, en ce moment, on joue beaucoup 30 minutes ou 40 minutes. Mais on verra, peut-être un peu plus de chansons bientôt. Et concernant les prochaines chansons, on a une session de création avec Tom de prévu en juin. On va essayer de faire un peu de musique, on verra ce que ça donne. En tout cas, ouais, y a des choses qui arrivent, mais pas forcément avec Tom, avec d'autres artistes auxquels je me suis ouvert aussi, des featuring. Enfin, il y a des choses qui arrivent. Ça, c'est cool, j'avais hâte.
Et ben, je note.
Merci beaucoup.
Merci
sur Syllab, et puis
tiens-nous au courant de la suite des événements.
Ben oui, avec plaisir. Et j'ai fait une petite dédicace aussi à Chris Dogs Out, avec qui j'étais tout à l'heure au studio. C'est pour ça que je suis en retard. Pour annoncer les prochaines collaborations. Voilà, le studio White Oak, si vous voulez faire des sessions studio de qualité. OAK, White Oak. Et c'est hyper pro, c'est hyper cool. Et Chris est un super producer. Voilà.
Merci beaucoup.
Avec plaisir, merci à vous.
6 heures avant minuit. Le lundi, c'est Chronique Fake News. J.D. Vance, le vice-président américain, aurait-il tué le pape François? What the fuck? Tout le monde est choqué dans la salle.
Oh my god!
Merci pour cette spontanéité dans les réactions. Non, bien évidemment, c'est une blague qu'on a vue circuler sur les réseaux sociaux. Cependant, d'autres théories fumeuses sur l'homme font aussi parler d'elle sur Internet. On décrypte ça tout de suite avec la chronique Fake News d'Aglaï.
Vous souvenez-vous des fausses photos du pape François en doudoune blanche qui avait fait le tour d'Internet, ou de la vidéo générée par IA du moment où il repoussait la main de Donald Trump? On peut dire qu'en 12 ans de pontificat, il aura été la cible de nombre de fake news, et ça n'en finit pas, même une semaine après son décès. Et oui, depuis le 21 avril, soit le jour même de sa mort, des internautes affirment qu'il humiliait ses fidèles et qu'il était donc un mauvais pape. Mais alors, où sont-ils allés chercher ça? En fait, sur plusieurs vidéos allant d'il y a plusieurs mois à 2019, on peut voir le souverain pontife accueillant des fidèles, ces derniers et dernières lui serrant la main, puis se baisse pour embrasser sa bague du pêcheur. Mais le pape, lui, réagit et a un mouvement de recul, ne les laissant pas faire. Les internautes, ni une ni deux, en concluent donc que le pape humilie publiquement les fidèles, mais qu'il est aussi raciste. C'est par exemple le cas d'un certain Tony le prêtre, référent du parti Les Patriotes.
Le prêtre. Pardon. J'étais obligée. Excuse-moi, continue.
Disant dans un tweet vu plus d'1,3 million de fois,
le hashtag Pape François avait publiquement humilié les fidèles en refusant qu'ils embrassent l'anneau du pêcheur. Une insulte à la tradition catholique.
Vous l'aurez compris, les critiques concernant le pape François en France viennent principalement de l'extrême droite, comme Éric Zemmour disant sur X.
Le pape est mort. Pour certains catholiques, son pontificat fut une épreuve dans leur foi dans l'Église.
Philippe de Villiers aussi s'est exclamé sur la plateforme en disant
« En tant que chef d'église, il a persécuté les chrétiens attachés à la tradition de l'église de notre enfance. C'était un pape woke, le pape des minorités, des périphéries. Mais lorsque vous allez chercher les périphéries en négligeant le noyau central, vous perdez tout. »
Mais donc tu ne nous as toujours pas dit, est-ce que le pape humiliait vraiment les fidèles?
Non, évidemment. En fait, il y a plusieurs raisons qui expliquent son geste. Tout d'abord, la bague du pêcheur, celle au centre de la discorde, qu'il avait reçue au début de son pontificat, en réalité, il ne la portait pas. En fait, sur les vidéos, il portait un autre bijou, une bague qu'il avait eue lors de son ordination épiscopale en 1992. Ensuite, ce geste de baise-main a été retiré du protocole papal par Benoît XVI, et le pape François ne l'a pas réintégré comme un signe d'humilité selon France Info. Aussi, tout simplement, c'était un geste d'hygiène, comme l'expliquait le Vatican, afin d'éviter que les personnes ne se contaminent pas entre elles.
Merci Aglaé, des pratiques de désinformation qui n'auraient vraiment pas plu au pape François, fermement opposé contre celle-ci. Pour lui, mentir, c'est péché, je cite. Les fausses informations non seulement déforment la réalité des faits, mais finissent aussi par déformer les consciences. Elles créent un climat de suspicion qui attise la haine, avait-il d'ailleurs déclaré. Rendez-vous après la fin du conclave qui s'ouvrira le 7 mai à venir pour savoir qui sera le prochain pape et les nouvelles fake news qui l'accompagneront. Nous, en attendant, on écoute notre répondeur, ça clignote.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô, allô.
Syllab, la radio sauvage.
Bonjour, voilà, on sait pas trop quoi dire, mais on va essayer de dire quelque chose. Voilà, c'est un message pour les parents et pour la jeunesse. on était en train de réfléchir, là, on se disait que voilà, c'est important que les parents qui ont des enfants, donc les éduquent correctement, leur donnent de l'amour et leur enseignent les vertus du travail, de l'activité, du sport, et pour que leurs enfants puissent avoir la chance de grandir correctement et puis d'éviter les ennuis plus tard, parce que les ennuis plus tard, ça peut faire beaucoup de problèmes. Ouais, beaucoup, beaucoup de problèmes. Genre, quel problème? Passer par la prison, par exemple. Justice, tout. Et alors, ça, c'est comment la prison? Bah, c'est pas une vie, c'est nul. C'est nul, c'est de la perte de temps. Ouais. Voilà, bon, on sait pas trop quoi dire de plus, on a du mal, mais on a essayé, quoi. Merci. Ouais, rebonjour, c'est encore nous. On a eu encore une nouvelle idée. Voilà, on voulait partager le fait que on aime bien le rap. Et on en écoute beaucoup, et moi, personnellement, j'aime bien quand le rap donne des paroles bonnes, des paroles qui nous aident à avancer. Bien sûr, on aime la technique, on aime aussi le beat, mais les paroles, c'est la base, à mon sens. Et j'aime bien quand on trouve des paroles qui nous enrichissent la tête, qui nous enrichissent le cœur. Et qu'est-ce que t'en penses, toi?
Ah ouais?
T'es d'accord, quoi?
Ouais, je suis d'accord. Voilà. On peut parler de drogue, de meufs, de chèques, on peut parler de bonnes choses, de la vie, qui se passe, tout ça.
Voilà. Bon, on a encore essayé, c'est pas encore ça, mais on va en envoyer un troisième. Ouais, on a trouvé encore une idée, là. Ouais, franchement, c'est vraiment agréable quand dans la rue, les gens, ils sont sympathiques entre eux, quoi. Quand tu demandes un renseignement, on te renseigne. Quand tu demandes... quand quelqu'un demande une cigarette, tu la lui donnes. Quand il y a une bonne ambiance comme ça, une espèce de fraternité, ça fait plaisir. Hein. Par exemple, qu'est-ce que t'en penses?
Bah ouais, c'est bien, les gens, quand tu leur parles, ils t'écoutent même pas, ils se barrent. C'est bizarre, c'est énervant. Faut qu'ils t'écoutent, faut parler, faut que le monde soit une famille, quoi.
Voilà, voilà, ça c'est de belles paroles. Ouais, voilà, je crois qu'on arrête de vous embêter maintenant, merci.
Merci, chers auditeurs, c'était très enrichissant. Vous avez été inspirés.
Des paroles inspirantes.
Vous nous avez touchés au cœur. Si vous voulez faire comme nos auditeurs et que vous avez besoin de dire des choses, téléphonez-nous, laissez-nous un message vocal au 02 30 96 25 35. Merci Timothée pour la technique et à demain dans 6h avant minuit.
Exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.